3, 2, 1, faut que je m'ouvre. Un podcast imaginé par le manège Scène Nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement ? Je suis Claire Mazur. Mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. D'où provient l'inspiration créative ? De nombreux artistes, penseurs ou penseuses, se sont frottés à cette question, sans que celle-ci ne soit élucidée. Le mythe de l'inspiration venue d'en haut perdure dans l'imaginaire collectif. On entend parfois encore parler de dons du ciel, d'œuvres touchant au sacré, ou encore de muses inspiratrices. Comme si la création artistique n'était pas rattachée à la terre, mais bien au ciel. Et si la capacité à créer venait simplement d'un état de disponibilité ? D'une porte laissée ouverte par l'artiste lui-même et qui laisse passer les couleurs des choses et du monde. Jérôme Brabant, que vous allez rencontrer aujourd'hui, se laisse volontiers traverser par ce qu'il voit pour imaginer ses spectacles. Le paysage, la nature, la magie, le cosmos, la vie, la mort. Cette porte laissée ouverte lui permet d'accueillir l'imprévu et d'accepter l'influence des éléments et des personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie. Il présente au manège Planète, sa nouvelle création inspirée par la voûte céleste. Bruno Lobé nous raconte ce qu'il aime dans son travail.
Alors, la première fois que j'ai vu le travail de Jérôme Brabant, c'était dans un de ses solos, Aymat. Mais c'est surtout comme interprète ou assistant de Mieko Campo, chorégraphe associé au manège de 2015 à 2018, hélas trop tôt disparu, que je l'ai rencontré. Jérôme trouve une filiation avec le travail de Mie, notamment dans un rapport très organique à la danse. Il travaille vraiment sur le mouvement, sur des états de corps qu'il plie et déplie comme des origamis. Et bien sûr, comme chez Mie, le dialogue avec la musique et la voix est très présent. Il s'agit le plus souvent de créations originales. Bref, son travail nous plonge vraiment au cœur d'un univers artistique singulier.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Claire.
Je suis ravie de t'interviewer. On se connaît depuis un moment déjà, mais je suis sûre que je vais apprendre beaucoup de choses au cours de cette interview. Alors déjà, rapidement, comment tu te présenterais aux auditrices et aux auditeurs ?
Je suis Jérôme Brabant, danseur et chorégraphe. Je suis avant tout réunionnais et moi, ce que j'aime créer sur le plateau, dans mes pièces de danse, j'aime créer des paysages et des événements météorologiques.
Alors, comment la danse est arrivée dans ta vie ?
Par plusieurs biais, en fait, mais beaucoup par la télé, en fait, quand j'étais enfant. Par exemple, Les Enfants du Rock, une émission qui existait entre 82 et 88. C'est là où j'ai vu mes premiers clips avec The Cure, Kate Bush. C'est vieux, hein, je parle du passé. Ou dans ces clips, notamment Kate Bush, où il y avait de la danse. Et donc, c'était la première fois que je voyais comme ça de la danse associée à de la musique. Et une fois, pareil à la télé, j'ai vu une pièce de Anne-Thérèse de Kersmaeker. J'ai vu Hop là. Et une autre pièce de La 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 Human Steps. Voilà, c'est comme ça que la danse est arrivée en moi. Après, je pense que vivant là-bas, loin, à La Réunion, à 9500 kilomètres, il y a des choses qu'on n'avait pas, des moyens qu'on n'avait pas. Moi, je viens d'une famille très modeste, très pauvre. Je ne raconte pas des fois, mais c'est vrai qu'on vivait dans une cité HLM avec quatre murs, les chiottes dehors, pas de douche. Squish, on va pleurer. Mais c'est vrai que c'était comme ça. On était, c'était quatre murs. Ils avaient fait ça sur le modèle des townships en Afrique du Sud. Bref, voilà, moi, je viens de là.
Ce que tu as vu à la télé, comment tu as réussi ensuite, toi, à le traduire dans ton propre corps ? Est-ce que tu t'es inscrit à un cours de danse ? Comment ça s'est passé ?
Non, je crois que j'ai beaucoup rêvé. J'ai beaucoup fantasmé et beaucoup de choses sont nées de frustration, en fait. J'ai contenu, puis ça a explosé à un moment. Je me suis retenu longtemps. Je voulais faire du dessin. Puis à un moment, en fait, je suis allé m'inscrire en dessin à l'université à Paris 8. Il n'y avait plus de place. Donc, j'ai fait du théâtre.
En arrivant sur le continent, du coup, c'est ça ?
Ouais, mais je suis arrivé sur le continent, j'avais 14 ans. Hein, donc, j'ai grandi à La Réunion jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, je connais plus quelque part le fait de vivre en métropole que de vivre à La Réunion. Mais quand même, être réunionnais, le fait de vivre à La Réunion, c'est bien inscrit dans mon corps. Donc voilà, en gros, le parcours, c'est ça. Je voulais faire du dessin, mais à l'université, il n'y a plus de place en art plastique. Mais comme je faisais déjà du théâtre, je me suis inscrit en théâtre. Mais très vite, au bout de deux années de Doug, ça s'appelle plus comme ça maintenant, je me suis rendu compte que ça n'allait pas aller bien loin, que ce n'était pas mon truc. Et une copine m'a incité à m'inscrire, enfin, à passer l'audition à l'école Marceau, à l'école du mime Marcel Marceau. Et ça devait être en 94 ou un truc comme ça. Et j'ai passé l'audition, j'ai été pris, j'ai fait mes 3 années, j'étais diplômé et premier de ma promotion.
Waouh, ok.
Bon, ben, je pensais pas, hein, franchement. Mais c'est là où j'ai commencé la danse et j'avais déjà 22 ans. Donc j'ai commencé la danse à 22 ans, où j'ai commencé par le classique. C'était dur, mais tous mes profs à l'école Marceau m'ont poussé à faire de la danse. Et ensuite, j'ai zoné pendant 1 an à Paris, où j'ai pris des cours au Centre du Marais. Et ensuite, j'ai fait la formation du CDC à Toulouse, qui s'appelait à l'époque Perfectionnement. Donc, c'est là où j'ai découvert du vrai contemporain. Et c'est là où j'ai rencontré aussi des chorégraphes avec qui j'ai travaillé par la suite, comme Marco Berrettini, Michel Dalu, Patricia Ferrara, Samuel Mathieu, etc. C'est un parcours un peu sauvage. Enfin, pas sauvage, mais... que j'ai construit comme j'ai pu.
Du coup, tu n'avais jamais vu avant un certain âge de spectacle de danse contemporaine ?
Ben, non. En fait, moi, j'ai vu mon premier... Je pense que j'en ai vu un peu à la télé, mais le fait d'aller voir vraiment des spectacles de danse contemporaine... oui, j'ai dû en voir un ou deux, je ne m'en souviens pas trop, mais là, j'aurais envie de dire non. Mais franchement, je pense que mes premiers spectacles de danse contemporaine que j'ai vus, ouais, c'était à partir de 22 ans, 23 ans, par là. Mais en même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des spectacles de danse contemporaine ? Je ne sais pas. Moi, tu vois, mes parents, ma famille, ils y vont que quand c'est moi qui danse. C'est pour le commun des mortels, comme j'aime dire. C'est pas évident, c'est pas une activité première d'aller voir un spectacle de danse. Pourtant, la danse, le corps, c'est en nous. Enfin, le corps, il est là. La danse, elle est en nous tout le temps. Le mouvement, on marche. Pour moi, c'est de la danse. De toute façon, la danse à l'école, ça devrait être obligatoire, je trouve.
La première fois qu'on t'a rencontré au manège, c'était pour un spectacle de Millet Cocampo, 1080. Tu disais que tu avais commencé à être interprète avec différents chorégraphes à la sortie du CDC de Toulouse.
Oui, en fait, en sortant tout de suite, j'ai été engagé par Michel Dalu, qui est plutôt dans le secteur du jeune public. Et ça, c'était super parce que ça m'a formé. Moi, je suis sorti de la formation, j'avais déjà 26 ou 27 ans. Il fallait danser très vite. Et comme tous les métiers, je pense que c'est en apprenant sur le tas. Donc, j'ai continué mon parcours d'interprète, comme ça, avec, comme je disais, Marco Berrettini, blablabla. Et c'est en 2010 que j'ai commencé à travailler avec Millet Cocampo. D'abord, plutôt dans la pédagogie, et puis après, en 2012, je suis devenu interprète pour elle. Voilà, je pense que Millet, elle a révélé, enfin, on s'est bien rencontrés, en fait. Je pense que si je suis rentré chez elle, c'est que j'avais vraiment les aptitudes et les qualités pour être au service de son travail. Et qu'elle m'offrait vraiment le terrain pour fleurir, en fait, pour que ça explose. Je parle beaucoup d'explosion. Il faut que j'arrête d'être obsédé par les volcans.
Et alors, à quel moment tu as décidé de créer ta compagnie à toi ?
En 2011. Je crois que c'était le 11 juillet 2011. J'ai commencé à faire ma première pièce en 2010, cette pièce qui s'appelle Heimat, qui parle du pays que l'on porte en soi, que l'on porte sur soi, la nostalgie du pays d'où l'on vient. Je l'ai commencé en 2010 et c'est sorti en 2012. Voilà. Mais moi, en même temps, ça se terminait avec toutes les compagnies avec lesquelles je travaillais plutôt de 2001 jusqu'à 2010. Ça commençait à s'arrêter, en fait, avec ces compagnies. Puis moi, j'avais envie de faire mon propre travail. J'avais envie de raconter mes propres histoires aussi. Il n'y a pas eu un moment de vide, mais il y a eu un moment de transition où j'ai pu avoir le temps de travailler sur mes propres pièces et sur ce que je voulais raconter. Poser au plateau, en fait.
Ce moment de transition, au fur et à mesure des chorégraphes que j'ai pu interviewer, il intervient souvent à une période charnière comme ça. Pour toi, c'est une question de mouvement, c'est un peu le mouvement naturel du danseur, à un moment donné, faire place à ses propres envies. Est-ce que c'est une question d'âge ?
Oui, en fait, il y a plusieurs réponses dans ta question. Quand tu commences, quand t'as 35 ans, on te demande un peu moins en tant qu'interprète, forcément. Donc, moi, c'est aussi ce qui est arrivé. Après, on m'a redemandé parce qu'ils ont compris qu'il fallait pas passer à côté de cette qualité merveilleuse. Et puis, oui, je pense que dans mon cas, j'avais besoin de raconter des choses, j'avais besoin de délucider ou de résoudre des choses par rapport à mon histoire, mais aussi par rapport au mouvement, par rapport à l'écriture du mouvement dansé. Est-ce que j'avais envie d'en écrire ? C'est mon métier, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je véhicule comme idée et comme forme avec ça. Tout le monde n'est pas écrivain de la danse, comme je dis, tout le monde n'est pas chorégraphe, donc certains l'ont bien vécu, d'autres pas, et certains sont passés à autre chose.
Alors l'Octogonal en 2011, pourquoi ce nom de compagnie? Qu'est-ce que ça raconte?
Parce que j'aime les formes géométriques, et je cherchais... À La Réunion, on a un artisanat qui s'appelle... c'est faire des tapis de mendiants, de faire du patchwork, avec des formes géométriques qui sont des hexagones. C'est tout petit comme ça, c'est hyper beau, c'est très minutieux comme j'aime. Et je cherchais une forme géométrique qui pouvait me rappeler ça, mais l'hexagone, c'est la France et tout. Et moi, je me sens pas toujours complètement français. Et donc, j'ai cherché une forme et je me suis dit, et là, j'ai trouvé, je fais, ah, mais l'octogone, c'est un carré et un cercle réunis. Le carré, c'est l'humain, le cercle, c'est le divin. Donc, les deux réunis, c'est la relation de l'humain au divin. Enfin, du divin à l'humain, comme tu veux, dans les deux sens. Et puis voilà, puis moi je compose ma danse à partir de formes géométriques, tout simplement. On danse en faisant des carrés, des cercles, des lignes, un peu comme du dessin.
Ça, c'est quelque chose que tu as pris dans ta formation ou c'est venu au fur et à mesure de ta pratique où tu t'es dit c'est ça ma base?
C'est venu à force de pratique, de rencontres avec les chorégraphes avec lesquels j'ai travaillé, et puis je pense que c'était en moi. En fait, moi, je voulais être dessinateur, je voulais faire de la peinture, je voulais dessiner avant. Même si la danse, c'était l'un de mes premiers fantasmes quand j'étais enfant, tous mes dessins, d'enfant, il y avait beaucoup de dessins de danseurs. Voilà, mais finalement, ça s'est recoupé parce que pour moi, la danse, c'est faire du dessin, mais en 3D, en vrai, avec le corps.
On va peut-être commencer par passer un premier extrait musical. T'as choisi Kate Bush pour commencer.
Ouais, parce qu'il faut commencer par le top. Et en fait, Kate Bush, pour moi, c'est le summum, c'est le haut de la montagne. Ce morceau est sorti, donc Running Up That Hill, qui est maintenant très à la mode avec une série que tout le monde connaît. Voilà, moi, je l'ai entendu en 1985. C'est une décharge, je ne sais pas si c'est une décharge, mais c'est un tourbillon d'émotions pour moi. Bien sûr, c'est hyper musical et en plus, c'est très dansant. On voit la danse dedans, on voit le rapport au corps. Et ce que j'aime en base, chez Kate Bush, c'est que ça raconte toujours des histoires et ça raconte beaucoup l'intimité et son intimité à elle, intimité de femme. Comme moi, ces derniers temps, je me suis un peu raccordé à mon intimité d'homme, enfin en tout cas de genre humain, parce que je suis pas tout le temps homme, je pense. Kate Bush est une insulaire, elle est anglaise. Et voilà, c'est important aussi pour moi, cette vision d'insulaire sur le monde et sur la musique.
Yeah. travailles au plateau, par exemple, quand tu débutes un projet, comment ça se passe dans l'ordre, on va dire, des choses? Est-ce que tu, donc, j'imagine que tu as d'abord une idée. Est-ce que tu choisis les interprètes en même temps?
Je pars souvent de sujets anthropologiques. Donc, je me documente pendant un moment, je m'inspire. Je vais rencontrer des gens. Enfin, la rencontre des gens, c'est hyper important pour moi parce que c'est eux qui me nourrissent. Ce sont leurs histoires qui remplissent les sujets, les contenus de mes pièces. Des thématiques, voilà, par exemple, sur Planète, je suis allé au planétarium, j'ai lu des choses, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé le ciel. Il y a beaucoup de contemplation. Et parfois, ce sont des épiphanies, en fait. Je te jure, j'ai des révélations, mais... Là, c'est vrai que pour Planète, j'ai vu une expo à Copenhague de deux artistes qui s'appellent Fuscu. Ça s'appelle Disharmony of Spheres. C'est une interprétation de notre système solaire. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette expo, j'ai entendu les sons enregistrés par les deux chanteuses, Anna Schneider et Joséphine Philippe. Ça me fait comme ça, comme un rayon de lumière qui m'arrive dans la face et dans la tête. Ça fait... Comme ça, et les idées naissent comme ça, en fait.
Et donc là, pour Planète, après, tu as rassemblé toute une équipe de danseurs et de danseuses?
Oui, mais certains, je connais. Donc, Alexandra Damas, Nina Vallon, qui travaillaient chez Mie avec moi. Donc, ce sont mes sœurs. Donc, on a la même façon de bouger. Et d'autres que j'ai rencontrés au fur et à mesure, dans le travail, que j'ai vu danser, comme Yves Mamba, qui a été coproduit par Le Manège. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Tout naît de la rencontre. Voilà. De comment, avec une rencontre, comment tu crées quelque chose, comment tu crées la relation, quel univers tu installes, intimité ou pas intimité, quel monde tu construis. Tout part de là, souvent. Je fais pas passer d'audition parce que je trouve ça violent, je trouve ça dur. Ou alors, dans ce cas, c'est sous forme de workshop où on travaille ensemble. Je suis transparent là-dessus, je dis bon, ben, il y en a qui ne seront pas pris, vous le savez. Donc, mais je vais essayer de faire ça le plus doucement possible.
Ça, c'est important pour toi, du coup, dans ta manière de travailler, cette question-là de la non-violence ou en tout cas d'être le plus bienveillant possible, comme tu le disais à l'instant, avec les danseurs et les danseuses.
Ouais, mais avec tout le monde. Mais je pense que... Alors, des fois, dans la vie, je suis une teigne quand même. Non, mais c'est vrai, des fois, je dis des saloperies, hein, comme tout le monde. Mais oui, c'est important d'être bienveillant, d'être doux avec les danseurs, qu'on prenne le temps de s'échauffer, que je leur raconte les projets, qu'ils s'imbibent de ce que moi, je traverse, de ce que je dis. Voilà, de prendre le temps après, de s'étirer, de pas faire danser les danseurs pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est une folie. Je pense que c'est une philosophie de vie. C'est un spray. Il faut faire... To spread love, vraiment, il faut diffuser de l'amour comme ça. C'est de l'amour, de la bienveillance, c'est hyper important actuellement. Je pense que, pas que, mais je pense que c'est comme ça que le monde va se transformer, va changer. Peut-être qu'on va réussir à penser les choses fonctionner autrement. En tout cas, peut-être pas nous, parce qu'on va mourir, mais peut-être vos enfants, ceux qui arrivent après.
Alors, tu as parlé donc du nom de ta compagnie, l'Octogonale, en parlant de ces deux formes géométriques qui relient le divin et l'humain. Je me souviens, moi, du premier spectacle qu'on a vu de toi, c'est vraiment ta création, c'était Impair. Et ça parlait déjà un petit peu de ces sujets-là, ça parlait de la réunion. Comment, toi, t'as traduit cette question-là dans tes pièces? Et puis peut-être aussi, là, sur ce nouveau projet Planète, comment ça se traduit pour toi?
Par exemple, dans Impair, un père, I-M-P-A-I-R, hein, pas un père, mon père, ton père. Hein. Par exemple, pour cette pièce, je me suis inspiré des pratiques magiques, mais aussi des gestes quotidiens, des tisaneurs, des herboristes, parce que mes arrière-grands-parents, Augusta et Bébé Laurette, étaient tisaneurs et herboristes, en fait. Donc, je ne suis pas allé non plus très loin. Hein. Après, il faut savoir qu'à La Réunion, le côté magique, c'est très présent. Le fait de voir des esprits, moi, j'ai grandi avec ça. Ma mère qui racontait qu'elle avait vu un esprit dans la rue en revenant du bal, ou les rêves prémonitoires qu'elle faisait, ou ma sœur aussi. C'est très présent, les histoires de sorcellerie, ou comment on fait un service de sorcellerie, ou je sais pas quoi, avec des plantes, de l'eau de coco, et des fleurs, ou un poulet, pour faire du bien ou du mal à quelqu'un. Voilà, moi, j'ai grandi avec ça, et pour moi, c'est tout à fait normal. Donc, Planète, il y a l'idée du voyage et du voyage intérieur. Comment tout le cosmos, le système solaire, ça agit sur le corps, dans à l'intérieur de soi, comment on observe autour de soi ces étoiles et comment on se sent faire partie de cet univers, de ce tout, tous ensemble.
C'est très beau, là, les auditeurs et auditrices ne voient pas, mais tu fais beaucoup de grands gestes quand tu parles de planètes. Et donc, on visualise effectivement les astres, leurs mouvements, etc., rien qu'en te regardant parler de cette pièce.
Ouais, parce que, en fait, tu vois, sur mes premières pièces, donc Aymat et Imper, c'était des pièces, c'était des solis, déjà. Plutôt des petits univers, tu vois, Aymat, ça se passait sur un espace de 3 mètres sur 2. Donc, il y avait l'idée de l'île. Imper, pareil, mais j'ai commencé à m'ouvrir sur le cosmos. Mon corps était peint en noir, avec des paillettes. Donc, il y avait déjà le fait d'être un corps, mais aussi d'être de la matière, de représenter le cosmos et que le spectateur aille dans ce cosmos, dans ce corps en mouvement tout le temps, qui évolue tout en courbe et en spirale.
La question de l'équipe est importante parce que tu as quand même un grand nombre de danseurs et de danseuses, il faut quand même le dire, par rapport à ce qu'on peut voir dans les spectacles de danse aujourd'hui. C'est rare qu'il y ait un plateau aussi nombreux. Et tu as aussi deux chanteuses.
Oui, il y a 7 danseuses-danseurs. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils sont d'origine tous différents. Quelle surprise, Jérôme Brabant vient de La Réunion, il travaille sur le métissage. Oui, je travaille sur le métissage, mais je veux dire, c'est en moi. Donc forcément, mon équipe, elle va être il y aura des couleurs différentes. Et ça, c'est hyper important. De toute façon, le métissage, c'est l'avenir pour moi. Donc j'espère qu'on est dans l'avenir actuellement. Et oui, il y a deux chanteuses, le duo Philippe Schneider, Joséphine Philippe, Anna Schneider, qui viennent du Danemark et qui ont un travail vocal, très abstrait. Il n'y a pas de parole, hein, il n'y a pas de texte écrit, mais ce sont des sons où elles chantent, elles font des variations avec la voix, elle fait « Et voilà, elles ont tout un travail comme ça, en fait. Et là-dessus, pour le son du cosmos, mais le son céleste, en fait, c'est ça que je cherchais aussi, je cherchais le son céleste, comme des anges ou des scientifiques qui chantent ou des magiciennes. Et c'est ce qu'elles sont, en fait. Ce sont des espèces d'anges, des magiciennes de la voix.
Et j'ai l'impression aussi dans tes pièces que la place du costume, ou en tout cas de comment on va transformer le corps avec les costumes, est assez importante.
Ouais, parce qu'en fait, moi, j'aime l'hybridité. Le corps est une matière pour moi et le corps danse des matières. Oui, j'adore les costumes, bien sûr, mais il faut qu'ils servent avant tout le propos de la pièce et qu'ils ne prennent pas trop la place là-dessus. C'est important, il faut qu'ils soient marquants, mais ça ne peut pas être comme je disais, tu vois, par exemple, Régine Chopinot à l'époque, c'est Gauthier qui avait des costumes, c'était magnifique, mais je pense qu'elle vraiment travaillé à partir de ça, pas moi. Moi, j'ai demandé à Henrik Vipskov, qui lui aussi est danois, si je pouvais utiliser ces pièces, ces tenues pour ma propre pièce, bien sûr, il en est très content. Ah bon, c'est du prêt-à-porter. Hein. Il n'a pas fait une création exprès pour la pièce. Mais le costume, c'est compliqué aussi, hein, parce que quand tu fais la danse, quand tu répètes et que tu es en jogging et que le costume arrive, ça change un peu ta vision des choses, le paysage, ça change le mouvement. Mais c'est très important, c'est très intéressant parce que ça nous déplace toujours. Pour moi, c'est intéressant d'être toujours déplacé.
À quoi on peut s'attendre, alors, en quelques mots, quand on viendra voir Planète ?
C'est un voyage. C'est un trip qui part de la Terre, qui va dans le cosmos, qui va loin, vraiment. On part de choses concrètes, de matières concrètes, de la lave, de la pierre. Puis après, au bout d'un moment, ça s'explose, ça s'effondre, ça part en poussière. Et nous devenons des particules. C'est pas joyeux, mais c'est la vérité. C'est un voyage, mais aussi je travaille sur l'acceptation de la disparition de l'humain, mais aussi sur le deuil. Sur le deuil, parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie personnelle récemment qui font que j'ai dû faire le deuil et avancer, accepter et transformer ma façon de voir les choses, accepter quoi.
La transformation, on en parlait en off juste avant l'enregistrement. Et tu as proposé aussi un extrait, une chanson réunionnaise qui, pour toi, parle un petit peu de ce cycle-là, c'est ça ?
Ouais, je n'ai pas des grandes connaissances en musique réunionnaise parce que c'est vrai que Peut-être que ça m'intéressait pas, peut-être parce que j'ai plus grandi à la, en métropole aussi, que bon, des histoires de goût. Mais oui, c'est un morceau de Maxime Lahop, et ce morceau s'appelle « Sous le pied de Camélia ». Et ça parle de quelqu'un qui meurt, il demande à être enterré sous le pied de Camélia, et ensuite, son corps va se transformer, il va passer dans la plante, etc., etc. Mais moi, surtout, ce que j'aime dans ce morceau, c'est que c'est toute la poésie réunionnaise, enfin, une partie de la poésie réunionnaise, mais aussi son espèce de nonchalance que j'aime. Il y a comme un laisser-faire.
L'avion y vole, laisse l'y voler. 6 heures va sonner, l'y va trop son garage pour l'y poser. L'avion y vole, laisse l'y voler. 6 heures va sonner, l'y va trop son garage pour l'y poser. Oiseau bélier y rôde, laisse l'y rôder. Maï va venir zone, l'y va gagner pour l'y béquer. Oiseau bélier y rôde, laisse l'y rôder. Maï va venir zone, l'y va gagner pour l'y béquer. Si un jour mi terre à moins sous pied camélia, la racine va tisane à moins et le fleuve avant porte à tuer. Si un jour à mi-mont, terre à moins sous pied camélia, la racine va tisane à moins et le fleuve avant porte à tuer.
Alors justement, si on parle un peu de la Réunion, c'est quoi ton rapport aujourd'hui à ce territoire ?
C'est mon pays, c'est mon amour, c'est chez moi, c'est ma terre, c'est... Putain, c'est des scories, c'est de la lave, ce sont des coquillages, c'est des plages, c'est le bain de mer, c'est ma famille, la lumière, le soleil, les couchers de soleil, les plantes, c'est tout ça, et je le porte en moi, voilà, c'est mon pays, c'est vraiment ma Heimat. Toutes mes inspirations, quasiment dans toutes mes pièces, je me suis inspiré de la Réunion. Comme je dis, moi, je fais des paysages au plateau et il y a toujours un moment, je reviens à La Réunion pour regarder les paysages, voir les mouvements des vagues ou du vent ou des gens qui marchent ou comment ils s'assoient, ils se comportent, ils dansent pour nourrir mes pièces.
Donc, tu y retournes régulièrement alors ?
À peu près 2 fois par an, ouais. Ouais, ouais.
Alors, dans tes pièces, il y a toujours un rapport à la musique. On en a un petit peu parlé. Tu as découvert la danse, notamment via les clips. Mais il est vraiment très différent. Par exemple, dans une pièce comme « Je n'ai pas eu le temps d'y penser, c'est arrivé » où tu t'inspirais des mouvements punk. Et puis là, dans Planète, où c'est une musique beaucoup plus contemporaine, même plus abstraite, je dirais. Comment tu vois ton rapport à la musique ?
Pour moi, c'est un tout. La musique est là, elle porte la danse, elle accompagne la danse, mais la musique est une partition à part entière, c'est-à-dire que c'est un événement entier de la pièce. Le tout, c'est de réunir la lumière, la danse et la musique pour en faire un seul objet, contemporain, chorégraphique, tout ce que tu veux, et créer une sorte d'équilibre. Quand je crée mes pièces, je crée sans musique d'abord. Après, la musique arrive, mais ce qui ne m'empêche pas de la réfléchir. Mais souvent, je l'imagine en termes de son, de bruit, de clap, tac, des trucs qui tombent ou qui roulent. Et comment, à partir de ça, d'éléments indépendants, on arrive à créer une mélodie sur certains moments.
Tu travailles plus avec de la musique qui se crée qu'avec des morceaux qui existent.
Oui, c'est hyper important d'avoir une musique originale pour mes spectacles. Encore une fois, de rencontrer des musiciennes ou des musiciens qui vont créer, de créer une histoire ensemble, c'est très important pour moi. Et c'est aussi c'est un luxe que j'aime m'offrir et offrir au public, d'avoir la musique en direct. C'est hyper important.
Cette année, tu travailles avec les élèves de la spécialité de danse du lycée Roosevelt, dans le cadre de notre projet Remue Manège. Donc, c'est une vingtaine d'heures d'intervention auprès de ces jeunes de première. Comment tu appréhendes le travail de transmission depuis que tu danses et depuis que tu es invité à faire des actions culturelles, comme on dit?
Là où c'est très utile, en fait, c'est comment, quand je vais dans une classe, comment je parle de mon projet ? Et que je ne suis pas dans mes délires d'artiste, comment je vulgarise, que je présente, et je donner des outils de danse concrets, comme des verbes d'action pour faire certains mouvements, pour partager cette danse avec des amateurs. Moi, je ne fais pas des pièces pour moi, je ne fais pas des pièces pour regarder les vidéos chez moi à la maison, c'est pour qu'ils rencontrent le public. Et que chacun se crée sa propre histoire. Mais vraiment, ça aide à préciser son propos par rapport à son projet. Ça, c'est très important de se confronter à des gens qui n'ont pas une formation de danse ou d'art, etc. Là, par exemple, au lycée Roosevelt, c'est aussi une histoire qu'on crée avec un groupe. Parce qu'il y a un moment, il y a de l'intimité. Parce que le corps, c'est intime quand même. Ce qui se passe dans un studio, c'est pas ce qui se passe dehors, en fait.
On y va ? Ensemble ? Ok. On part de la position, on va dire, 0. Et je vais compter comme ça, vous allez dérouler votre phrase au fur et à mesure. Ok ? Plusieurs fois de suite. 5, 6, 7, 8. 1. Ce que je peux vous conseiller, peut-être que là, on peut essayer ça. Avancez un peu, s'il vous plaît. Vous pouvez peut-être sur votre phrase mettre des sons pour accompagner les mouvements. Donc, ça peut être des choses comme de l'air, du vent, un nuage, des explosions, des effondrements, des petits sons aigus, d'accord ? C'est pas obligé, pas forcément sur tous les mouvements, mais en tout cas, moi, je trouve que ça aide à incarner le mouvement, à le remplir d'images, d'émotions et de le rendre plus dense. On essaye ? On y va !
Tu proposes aussi, tu as proposé en fait au Planétarium de Reims de faire une sorte de conférence dansée à deux voix. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette envie-là ?
Oui, en fait, c'est pas la première fois que je fais une conférence dansée sur A Taste of Ted. On en faisait déjà avec Maud Pison et Aurélien Richard aussi. Mais c'est pareil, c'est encore une fois, c'est de la vulgarisation. Moi, j'aime bien aussi expliquer comment sont nés les projets. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en rapport le propos scientifique et la création chorégraphique. Comment, en lisant, en m'inspirant de termes ou d'informations scientifiques, j'arrive à créer une danse.
Et donc là, on aura le directeur, c'est ça, du Planétarium, qui viendra donner des moments d'explication ?
Oui, il y a Baptiste Redon qui sera là, donc je lui poserai clairement des questions, genre comment est constitué notre système solaire, de quoi est composée la planète Saturne. Et à partir de ce qu'il dira, moi et les danseurs, feront une démonstration de comment sont nées ces danses et à quoi elles ressemblent aujourd'hui.
Tu as une carrière maintenant relativement longue.
Vas-y, je suis vieille. On peut le garder, je veux dire, je suis vieille, j'ai 50 ans.
Eh bien, à 50 ans, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te donne à nouveau encore envie de créer des pièces ?
Tout. Je ne sais rien faire d'autre, à part poncer des meubles et les repeindre. Tant qu'on peut le faire, il faut le faire. Je trouve que c'est parce que c'est... Pourquoi ? Parce que c'est un moyen d'expression qui, pour moi, offre un panel large d'interprétation. Quand tu vois une pièce de danse, on met l'imagination du spectateur à l'épreuve. On met ses émotions, ses sensations à l'épreuve. Voilà, on le met face à ça. Et pour moi, c'est très important. C'est ça qui me donne envie de continuer à danser, de continuer à donner de l'émotion, des sensations aux gens, qu'ils continuent à rêver, qu'on continue à imaginer les choses. Mais peut-être aussi que le fait de ne pas parler sur scène, de danser, on utilise d'autres strates de notre cerveau qui nous permet peut-être de fonctionner autrement. C'est un peu comme des aliens. Non, mais c'est vrai, là, il faut vraiment qu'on évolue. Là. Il faut qu'on change, ce n'est pas possible. Mais c'est ça qui me donne envie de danser. Et puis, bah, je ne sais pas, mais je pense que moi, j'ai une joie de vivre qui est en moi... J'ai un super mari, j'ai deux chats, ça se passe plutôt bien ma vie. Les gens que je vois qui sont autour de moi sont super et voilà, on se motive les uns les autres. Il y a toujours quelque chose de curieux à voir ou à entendre ou à débattre. Tout ça, ça me donne envie de danser. Tant que je verrai de l'eau dans l'océan, la mer ou le vent qui souffle dans les arbres, ça me donnera envie de faire des pièces.
Malgré, du coup, les difficultés que tu peux avoir dans ce que c'est que la gestion d'une compagnie, qui est quelque chose de pas évident aujourd'hui. On a entendu récemment des annonces sur des baisses de budget, etc., sur la culture. Est-ce que tu as envie de parler de ça?
Ben alors, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que ce gouvernement cherche à nous faire disparaître tous les uns après les autres? Ben non, on va pas faire disparaître l'art. C'est là depuis toujours. Donc, on va pas disparaître. On va trouver où on se bat et vraiment le gouvernement revient sur ses positions, ce qui m'étonnerait. Où nous, on va se battre et on va faire les choses autrement. On va penser les choses différemment. Ouais, on n'a pas assez de fric. Oui, on a un déficit de 30 000 balles dans la compagnie. Mais moi, je vais la faire, cette pièce. Je vais la faire et j'espère qu'on va la tourner. Et je pense que la prochaine, je vais en faire une autre de groupe. C'est hyper important. Non, je ne vais pas entrer dans le truc. Absolument, il faut faire un solo ou un duo parce qu'on n'a pas assez d'argent. Ce n'est pas grave, on travaillera moins d'heures, on fera des résidences moins longues. Mais ouais, moi, la prochaine fois, je vais refaire une pièce de groupe, ouais. Et s'il faut le faire autoproduit, que je mette le peu d'argent que j'ai dedans et qu'il faut le faire dehors, eh ben, je le ferai.
C'est de l'ordre de la résistance aussi pour toi, alors.
Ouais, c'est de la résistance. Faut pas se laisser faire, les gars. Faut pas se laisser faire.
Peut-être pour redonner un petit peu dans les oreilles des personnes des choses qui se rapprocheraient de ce qu'ils pourront entendre dans Planète. Tu as choisi un morceau de Björk qui s'appelle The Gate. Tu peux m'en parler un petit peu?
Oui, parce que pour moi, c'est comme Kate Bush, c'est le sommet du volcan. C'est le top, mais c'est surtout quelqu'un qui... Alors, ce morceau date de 2017, hein, enfin, l'album est sorti en 2017, mais c'est quelqu'un qui voit toujours vers l'avenir. Et ça, c'est important de toujours regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Oui, on peut avoir de la mélancolie, de la tristesse, mais il faut qu'on avance, toujours. Et ça, c'est important pour moi. Dans The Gate, elle dit que la blessure dans sa poitrine a guéri, ou s'est transformée plutôt en un passage, un portail qui diffuse de l'amour, où je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi. Déjà, c'est hyper puissant, cette femme qui fait un mètre, je sais pas combien, qui est toute petite, qui est là sur des scènes, une scène immense, et qui chante ça en ouverture de concert, et tu te prends ça en plein dans le corps, dans la poitrine, quelqu'un qui a une telle force, il dit il faut diffuser de l'amour, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est un message hyper important. Et puis voilà, c'est bien beaucoup d'émotions, et encore une fois, moi, cette chanson, elle est liée aussi à mon histoire actuelle. Là, par exemple, c'est vrai que le décès de Mieko Campo, c'est une plaie ouverte pour moi, qui peut-être en train de se refermer ou se transformer récemment. Et d'autres décès dans ma vie qui ont eu lieu aussi un peu au même moment. Il faut penser les plaies, il faut qu'elles se referment et qu'elles se transforment en quelque chose de positif et qui diffuse une lumière radieuse.
My heat.
Peut-être pour terminer cette conversation, est-ce que tu as des conseils sur une œuvre ou un artiste, une production artistique en tout cas, que tu conseillerais à tout un chacun?
Moi, je conseillerais d'aller voir de l'architecture parce que dans un an, deux ans, quand on écoutera ce podcast, par exemple, une expo, ça sera passé, on ne pourra plus les voir. L'une de mes plus belles expériences, c'est d'être allé voir le Guggenheim à Bilbao. Parce que c'est une forme en mouvement. Et la deuxième, ça a été d'aller voir le Matrimandir à Auroville, qui est dans une société utopique en Inde, donc à côté de Pondichéry. C'est une boule comme ça, recouverte de grosses pastilles d'or, et c'est un centre de méditation. Mais c'est pareil, c'est un centre de méditation, on n'a pas le droit de parler, évidemment, et qui fait le lien entre l'humain et le divin.
Et la boucle est bouclée.
Et la boucle est bouclée, ouais.
Merci beaucoup, Jérôme, pour ce moment d'échange. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Pour découvrir le travail de Jérôme Brabant, rendez-vous au Planétarium de Reims le 6 mai et au Manège de Reims les 14 et 15 mai pour les premières de Planète. Si vous n'êtes pas à Reims, il y a d'autres dates, à Bar-le-Duc le 17 mai, puis en 2025 à Strasbourg, Troyes, Metz. Toutes les dates sont sur le site de l'Octogonal, en lien dans la description de l'épisode. On se retrouve bientôt avec une autre artiste qu'on adore, Marinette Dosville. Et d'ici là, je vous souhaite de belles découvertes artistiques. Bye!
Wouh!